Chapitre 7. Si ta maison a brûlé, si tu ne sais pas où aller, si ta femme t'a trahi, si on t'a tout pris, va voir le viduc. Va voir le viduc. Si ton pays est envahi, si les tiens sont partis, si les prêtres t'ont banni, si les démons t'ont saisi, va voir le viduc. Va voir le viduc. Si le jeu t'a ruiné, si les fils t'ont spoilé, si ton corps est blessé, si même la vie t'a lâché, va voir le viduc. Va voir le viduc. Le viduc Papyronda peut sûrement quelque chose pour toi. Chanson populaire des mondes Skoy, traditionnellement attribuée au grand Badour Pat Kooton. Petite note se rapportant au poème « Fils, deux points, usurier des mondes Skoy ». Glatinbat. Difficile pour Jek d'accoler le nom de ville à ce gigantesque enchevêtrement de baraquements et de tentes. Les rats du désert du quartier maître Dawn le fil escortaient le petit Anjorien comme s'il s'agissait du fils d'Arès en personne. Il parcourait une ruelle étroite, populeuse, bruyante, fendait les grappes de badauds suspendus au boniment des marchands ambulants, écartait sans ménagement les curieux et les mendiants, enjambait les fils tendus des maisons de toile, contournait les latrines, les étals, les amoncellements de ballots, de bottes de plumeng, de caisses de bois. Ils avaient garé l'aérotomique sur une aire de stationnement où étaient déjà alignés les 19 autres glisseurs du clan. Besmore avait convoqué les hommes d'équipage sur le pont et leur avait donné des instructions précises avant de les lâcher dans les rues de la cité.
« Ne parlez à personne de ce qui s'est passé avec les hyènes. Je tuerai les crétins qui ne sauront pas tenir leur langue. »
Bien que le sorcier n'ait pas jugé bon de leur fournir d'explications complémentaires, les hommes qui avaient escompté tirer quelques glorioles de leur aventure, de nombreux gobelets de chêne, l'alcool de plumeng et les faveurs des femmes, avaient dû jurer de garder le silence. Besmore n'ignorait pas que leur langue se délirait lorsque le chêne leur aurait embrumé le cerveau, mais il avait gagné l'essentiel, à savoir du temps. Il voulait absolument mettre le petit surfaceur à l'abri avant que les clans ne s'emparent de son histoire et n'en fassent un prince du soleil, un fils d'Arès. Cela faisait plus de 4 siècles qu'un être humain, ou assimilé, n'avait pas pactisé avec les hyènes tachetées, et une telle rumeur, si elle se répandait, ne manquerait pas de provoquer une hystérie collective dont personne ne pouvait mesurer les conséquences. Or, le sorcier des rats du désert se faisait un devoir d'aider le petit surfaceur à poursuivre son chemin, à accomplir sa destinée. Telle était la teneur du message que lui avait délivré la sorcière nucléaire lors de sa dernière danse avec les atomes dans la nef radioactive de bord. La multiplicité et la disparité des engins de transport stationnés sur l'aire portuaire de Glatinbat avaient sidéré Jek. Certains ressemblaient à de gros scarabées posés sur d'énormes chenilles, d'autres à des tortues à voile, d'autres encore à des vers géants et articulés. Ils ne se différenciaient pas seulement par la taille et la forme, mais également par le mode de propulsion. Les plus nombreux, reconnaissables à leurs cellules nucléosensibles, utilisaient l'énergie nucléaire, mais d'autres étaient mus par d'antiques moteurs à explosion, par des systèmes photovoltaïques ou la seule force mécanique du vent. « Là-bas, le vaisseau du viduc Papyronda, » murmura Besmore. Jake écarta les pans lâches de son turban et leva la tête. Il aperçut au-dessus des crêtes inégales des grandes tentes et des toits de tôle des baraquements une gigantesque masse grise qui occultait le disque rougeoyant d'Arès. «
Ne reste pas trop longtemps à découvert, » souffla le sorcier. « Si les citadins se rendent compte que nous convoyons un humain saint, ils vont nous tomber dessus comme des mouches sur une charogne. »
Joignant le geste à la parole, Besmore noua les deux pans du turban de manière à ne laisser qu'une mince fente à hauteur des yeux de Jek. Le petit Anjorien ne se ressentait plus des blessures que lui avaient infligées les corbeaux nucles. Les onguents et les rituels de Besmore avaient accompli des miracles. Ne subsistaient de ses plaies que de légères cicatrices qui lui tiraillaient la peau. Il avait mis à profit les 3 jours de voyage pour se reposer et reconstituer ses forces. Il avait l'impression de se promener dans les allées d'un parc zoologique, où l'on aurait affublé les animaux de hardes bariolées. Autant il s'était accoutumé au physique ingrat des rats du désert, autant les farelles et bizarreries physiologiques qu'il découvrait dans les rues de Gladbatin. Il entrevoyait des crânes difformes, des faces entièrement recouvertes de fourrure, des nez en forme de trompe, des bouches qui s'étiraient en bec, des yeux qui poussaient au milieu des fronts, de longs bras souples qui traînaient par terre, des jambes qui allaient par 3 ou 4, des doubles bosses dorsales. Jack pouvait spontanément donner un nom d'animal à chacun. Celui-ci, avec les 2 canines qui s'évadaient de sa bouche, était un chien-lion. Celui-là, avec ses longues oreilles tombantes, un oursigre. Il lui semblait être environné d'oiseaux, de reptiles, de pachydermes, de rongeurs, de chigalins, de camélidés, de fauves, d'animaux domestiques. Certains déambulaient entièrement nus ou vêtus d'un minuscule carré de tissu. Jack identifiait les femmes à leurs mamelles, à leurs tétines, à leurs démarches ondulantes, à leurs ornements, et les hommes à leurs testicules, à la largeur de leurs épaules, aux armes passées dans leur ceinture, à leur allure rustaude. En comparaison des habitants de Glatinbat, principale agglomération de la zone contaminée, les rats du désert paraissaient presque beaux.
« On arrive !» dit Dan le fil.
Ils débouchèrent sur une place circulaire bordée de tavernes. Une telle multitude se pressait sous les hauts vents que de nombreux consommateurs n'avaient pas pu trouver de place devant les comptoirs ou autour des tables métalliques, et qu'en désespoir de cause, ils s'étaient assis à même le trottoir, gobelets de chêne en main. Les éclats de voix, les vociférations et les rires composaient une cacophonie criarde, tapageuse. Une puanteur d'urine rance saturait l'atmosphère figée aussi lourde que du plomb. Jack vit des hommes ou des femmes, vautrés sur les tabourets ou sur les tables, se soulager directement sous eux.
« Pressons !» gronda Dawn le fil.
Ces hommes ralentissaient l'allure, jetaient des regards envieux sur les tonneaux de chêne alignés sur des étagères au-dessus des comptoirs.
« Vous pourrez boire tout votre soul lorsque je vous aurai donné quartier libre, pas avant !»
maugréa Dawn le fil. Les hommes ne mouraient pas seulement d'envie de s'étourdir dans le chêne, lequel aidait à oublier la triste condition de bêta zoomorphe, mais également de se blottir dans les bras des femmes, qu'elles en eussent 1, 2 ou 3, qu'elles fussent de leur clan ou d'un autre, qu'elles fussent leurs épouses légitimes, des maîtresses occasionnelles, ou des créatures vénales avides de les soulager de leur bourse. Continence et abstinence étaient 2 règles immuables dans le cœur du désert, et les courtes escales à Glatinbat constituaient autant d'occasions de dépenser les soldes et de rattraper le temps perdu. La résidence du Trar Godovan était l'un des bâtiments les plus importants de Glatinbat, l'un des plus étonnants également, car, outre le fait que ses hauts murs étaient faits de torchis et de colombages apparents, il disposait d'un jardin intérieur. Un véritable luxe dans cette agglomération où les espaces avaient tendance à se restreindre avec le temps. La zone contaminée n'offrait que de maigres ressources et de nombreux clans nomades abandonnaient leur vaste territoire pour venir s'agglutiner à la population sédentaire de Glatinbat. Le conseil des Trars de la cité avait tenté tout ce qui était en son pouvoir pour dissuader les émigrants de recourir au droit d'asile permanent inscrit dans la constitution fédératrice des clans. Il avait même levé des milices d'ordre public, chargées de débusquer et de chasser les indésirables manu militari. Mais celles-ci s'étaient avérées nettement insuffisantes pour endiguer l'afflux massif des errants. Autrefois sûres, les rues de Glatinbat étaient devenues le théâtre permanent de règlements de comptes entre commerçants, clans et trafiquants. Le portail massif de la résidence du Trar Godovan donnait sur une impasse contiguë à la place des tavernes. Dès qu'ils reconnurent Dawn le fil, le sorcier Besmore et leurs hommes, les gardes de faction entr'ouvrirent les lourds battants de bois. Des exclamations de surprise et de joie saluèrent le retour de ceux que l'on avait cru perdus, emportés par une tornade nucléaire ou dévorés par les hyènes tachetées. Le quartier-maître coupa court aux effusions.
« Où est le trard ?»« Dans ses appartements, il a demandé qu'on ne le dérange pas. »
Don Lefil se tourna vers ses hommes regroupés dans l'ombre du porche.
« Vous avez quartier libre jusqu'à demain matin. »
Ils n'eurent pas besoin de se le faire dire deux fois. Ils rengainèrent leurs ondes morts, rompirent les rangs et se dispersèrent en semant de grands éclats de rire.
« Tu aurais dû les consigner, » dit Besmore.
« Je ne te donne pas de conseils lorsque tu danses avec les atomes, » rétorqua Don Lefil.
« Ces imbéciles vont s'empresser de raconter l'histoire des hyènes. La résidence sera prise d'assaut dans une heure, deux si nous avons de la chance. »
Il désigna Jake d'un mouvement du menton.
« Et ils ne les laisseront pas repartir. »
« Quelle importance, il sera aussi bien ici qu'ailleurs. »«
Tu parles comme les fous, quartier-maître. »
Les petits yeux de Don Lefil s'injectèrent de sang. Machinalement, il glissa la main dans l'échancrure de sa combinaison et agrippa le manche de son court poignard. Les gardes avaient refermé le portail et glissaient la barre de fer dans ses énormes traverses. Quelques hommes déambulaient dans le jardin. Ce que Besmore avait pompeusement baptisé « jardin » n'était en fait qu'une cour pavée et jonchée de déchets organiques, solides ou liquides. Il y régnait la même odeur fétide, en plus concentrée peut-être, que sur la place des tavernes. L'air farouche du quartier-maître n'impressionna pas le sorcier.
« Seuls les fous sortent les armes devant les serviteurs d'Arès, »
lâcha-t-il d'un ton glacial. Don Lefil laissa retomber le poignard dans sa poche.
C'était une entreprise relativement raisonnable que de provoquer un, voire deux hommes ordinaires, mais il fallait avoir une sacrée dose d'inconscience pour défier un sorcier.
« Allons voir le trard, »
grommela-t-il entre ses lèvres pincées.
« Il a demandé à ne pas être dérangé. »
Le quartier-maître haussa les épaules, traversant la cour à grandes enjambées, ne tenant aucun compte des avertissements que lui lancèrent les gardes. Il se dirigea vers l'ouverture arrondie de la bâtisse principale située en face du porche d'entrée.
Besmore agrippa le bras de Jake. « Empêchons-le de faire une bêtise !»
Ils s'élancèrent à la poursuite de Don Lefil, s'engouffrèrent sur ses traces dans un corridor, gravirent quatre à quatre les marches usées d'un escalier tournant, entendirent des éclats de voix avant d'arriver sur le palier du premier étage. Les battants de la porte claquaient encore contre les murs lorsqu'ils pénétrèrent dans la chambre du trard Godovan. Jake aperçut d'abord deux formes allongées sur ce qui ressemblait à un lit et qui n'était qu'un matelas grossier de bottes de fan de plumeng recouvert d'un tissu imprimé et jonché de coussins. En dépit de la pénombre, il vit que ces formes étaient des silhouettes humaines, des femmes plus précisément, recroquevillées sur elles-mêmes, terrorisées. Elle se protégeait le visage du bras et poussait des glapissements suraigus. Le trard Godovan se reculait lentement vers le mur du fond. Il ne portait aucun vêtement et son corps bosselé, d'une étonnante blancheur, crevait le clair-obscur de la chambre. Ses yeux ne quittaient pas Don Lefil qui avait dégainé son poignard et s'avançait vers lui.
« Je me suis promis de te faire la peau, Godovan !» rugit le quartier-maître. « 5 de mes hommes ont fini dans l'estomac des hyènes pendant que tu te prélassais avec tes putes !»
Le quartier-maître lança une première attaque. Son bras décrivit une trajectoire fulgurante du bas vers le haut, mais d'une rotation du torse, le trard esquiva la lame. Godovan ne s'était pas dirigé vers le mur du fond par hasard. Il laissait croire à son adversaire qu'il s'était fourvoyé dans une impasse, mais il se rapprochait directement de son sabre posé contre une traverse du colombage. Don Lefil, aveuglé par sa colère, ne s'était aperçu de rien. Il frappa une seconde fois de la gauche vers la droite, la pointe de sa lame se ficha profondément dans le torchis. Le temps qu'il l'en retire, et le trard s'était jeté sur le côté, s'était emparé de son sabre et l'avait extirpé de son fourreau. Flairant le danger, le quartier-maître arracha son poignard, sauta en arrière, mais emporté par son élan, il perdit l'équilibre et s'affala de tout son long sur le plancher. Un avantage que Godovan mit instantanément à profit. Il bondit comme un fauve sur son adversaire. Le sabre s'abattit en sifflant sur le crâne de Don Lefil. Besmore saisit la nuque de Jack et lui plaqua le visage contre le cuir épais de sa combinaison.
« Ne regarde pas !»
Godovan ne se contenta pas de fendre le crâne du quartier-maître jusqu'à la naissance du nez. Il s'appliqua ensuite à lui trancher le cou et, après que sa tête eut roulé sur le sol, il l'envoya s'écraser contre un mur d'un formidable coup de pied. Une fontaine de sang jaillit du corps décapité dans un affreux borborygme.
« Ce n'est pas aujourd'hui que cet idiot prendra ma place !»
fut la seule oraison funèbre du quartier maître Don Le Fil. Le trard s'approcha du lit, essuya la lame empourprée sur un coussin, glissa calmement le sabre dans son fourreau, l'appuya contre la même traverse, puis, comme s'il ne s'était rien passé, retourna s'allonger sur le matelas de Plumeng. Les femmes, livides, ne parvenaient pas à détacher leur regard de la tête exsangue du quartier maître dont les yeux écarquillés, horrifiés, se tendaient d'un voile vitreux et dont le cerveau se répandait lentement hors de la boîte crânienne. L'odeur doucereuse du sang se mêlait aux relents nauséabondes qui flânaient dans la pièce. Godovan parut tout à coup prendre conscience de la présence de Besmore et de Jack.
« Te voilà, surfaceur. Tu n'es pas grand, mais tu es coriace. Il faut avoir une bonne dose de ténacité pour échapper aux corbeaux-nucles, aux hyènes, aux tornades nucléaires et aux traitements de Besmore. Demain, nous irons voir ton ami le viduc Papiranda. »
« Pas demain, maintenant !»
Le trard se redressa, repoussa brutalement une femme qui le gênait et dévisagea ardemment le sorcier.
« Depuis quand un sorcier donne-t-il des ordres au trard du clan ? Peut-être est-ce toi qui as poussé le quartier maître à se mutiner ?»«
Donne le fil a reçu le châtiment que méritaient les imbéciles !» répondit Besmore. « Il s'agit maintenant de mettre le surfaceur à l'abri avant que les clans ne prennent cette résidence d'assaut. »
Une grimace, un sourire, se dessina sur les lèvres acérées du trard. Il lustra un à un les longs poils rêches qui lui faisaient office de moustache. N'entraient pas dans cette catégorie les poils courts et souples qui lui poussaient directement sur le nez.
« Tu te fous de moi, Besmore. Ce n'est pas parce que ce gosse prétend connaître le viduc Papiranda que... »«
Qui te parle du viduc Papiranda ?»
coupa le sorcier.
Nous avons été attaqués par une horde de hyènes dans le désert.
Et alors, c'est pas la première fois.
Le trard allongea ses bras et enlaça les deux femmes dont les têtes échevelées vinrent se nicher au creux de ses épaules. En dehors de leur appendice nasal très développé, caractéristique qui trahissait leur appartenance au clan des rats du désert, elles ressemblaient davantage à des humaines saines qu'à des créatures atteintes de bêta-zoomorphie. Le fin duvet qui leur recouvrait le corps n'occultait pas leur peau soyeuse et blanche. Leurs seins généreux et fermes rappelèrent à Jack la poitrine de Manhatskin, et il fut traversé d'une violente envie d'aller y enfouir son visage.
« Les hyènes étaient tellement nombreuses et hargneuses qu'elles nous ont débordés, » poursuivit le sorcier. « Nous ne leur aurions pas échappé, si... »
Et il narra brièvement l'intervention du petit surfaceur, la manière dont elle s'était couchée lorsqu'il était apparu sur le pont, l'étreinte de Jack avec l'une d'entre elles, et la retraite silencieuse de la horde alors qu'elle s'était rendue maîtresse de l'aérotomique.
Dans une heure, les hommes de Don Le Fil seront abrutis de chaînes. Ils oublieront leurs promesses et raconteront cette histoire à qui voudra bien les entendre. Cela fait tellement longtemps que les clans attendent l'avènement du prince du soleil que...
Et si ce gosse est vraiment le prince du soleil ?
L'interrompit Godovan. Le regard dont le trard et les deux femmes enveloppaient Jack exprimait à la fois de l'admiration, de la crainte et du respect. Besmore secoua lentement la tête.
« Son destin ne s'arrête pas à Glatinbat. »«
Ton opinion n'est pas loin, sorcier. »«
Mon opinion ne compte pas, » répliqua Besmore. « J'exécute les ordres de notre mère, la sorcière nucléaire. »
Un argument décisif. Les rats du désert ne s'avisaient pas de s'opposer à la volonté souveraine de la messagère d'Arès, et le trard Godovan n'échappait pas à la règle. Ils vivaient dans la crainte superstitieuse des colères de leur mère céleste, du feu destructeur que crachait sa bouche infernale et des terribles tempêtes que déclenchaient ses fils, les atomes de fission.
« Tu sais choisir les mots, sorcier, »
soupira Godovan.
La messagère d'Arès sait choisir ses serviteurs.
Le trard se leva et s'adressa aux deux femmes.
Occupez-vous du surfaceur pendant que je me prépare. Lavez-le, procurez-lui des vêtements décents et donnez-lui à manger. Nous partons dans un quart d'heure.
Puis il récupéra son sabre et, suivi de Baisemort, se dirigea vers la porte. Il traversa la mare de sang dans laquelle baignait le cadavre de Don le Fil. Ses pieds abandonnèrent des flaques pourpres sur le parquet.
« Près de 500 mètres de long sur 100 mètres de haut »,
précisa Baisemort qui avait surpris le regard ébahi de Jake. Posé sur 20 pieds en forme d'arc, le vaisseau du viduc Papyronda occupait la totalité de la surface de l'astroport de Glatinbat, comme si l'air plane d'atterrissage et de décollage n'avait été conçu que pour lui. Debout contre la baie vitrée de la salle d'attente, Jake ne savait plus où donner du regard. Le sorcier était venu se poster à ses côtés tandis que Godovan et les gardes s'étaient laissés choir sur les fauteuils à demi éventrés réservés aux passagers.
« Il utilise 2 modes de propulsion, » reprit Baisemort. « Ses 30 moteurs d'extraction, de conception classique, lui permettent de s'arracher des atmosphères. Puis, lorsqu'il approche les 10 000 km à la seconde, son programmateur, un ancêtre du déromate de l'ère moderne, et crée un effet de dédoublement. Pendant quelques secondes, le vaisseau se retrouve dans 2 endroits de l'espace en même temps, parfois même à plus d'une année-lumière de distance. Il suffit ensuite au pilote d'opérer son choix. Le vaisseau progresse ainsi par une succession de bonds quantiques. On appelle cela l'effet Schlaar.
« Tu en sais des choses, Baisemort ?» s'exclama Jake admiratif.
« Le rayon maximal du programmateur Schlaar et de 3 années-lumière,
poursuivit le sorcier, comme s'il parlait pour lui-même.
Le Papyduc, c'est le nom du vaisseau, vient des mondes Skoï et ne dessert qu'une infime partie des mondes. Les planètes les plus proches du Djen et celles situées près de la ceinture d'astéroïdes de l'amas de Néorope. Sans oublier sa nouvelle escale, la Libre Cité de l'Espace. Une station rebelle que les Raskatas de Langue Empire ont installée entre le système d'Arès et Néorope. Tu vois les tuyères sous le fuselage ?
Jake distingua les extrémités évasées de tuyaux qui saillaient de la carène rongée par une lèpre brunâtre.
L'estampille des technologies de l'Antiquité. Le programmateur quantique est venu se greffer plus tard. Personne, pas même le viduc, ne connaît l'âge exact de ce vaisseau. 4 000, 5 000, peut-être 6 000 ans. Il a probablement transporté des pionniers, des Afrisiens, des humains originaires des confins de l'univers connu. Beaucoup sont nés, ont grandi, ont vieilli et se sont éteints pendant le voyage. Et ce sont leurs enfants ou leurs petits-enfants qui ont colonisé les planètes des Marches. Ce monceau de ferraille brûlée est un témoignage unique de l'histoire des humanités, Jake.
Monceau de ferraille était probablement l'expression qui décrivait le mieux le vaisseau du viduc Papyronda, un monstre noir et métallique dont les différents composants auraient proliféré de manière totalement anarchique. Tout le long du fuselage pullulaient des excroissances, des renflements, des ramifications, des meurtrières, des chemins de réparation, des antennes, des paraboles, des mâts, des échelles, des linéaments de sas, des rangées de hublots. 3 immenses gueules ogivales vomissaient des passerelles roulantes de plus de 30 mètres de haut, au pied desquelles stationnaient des motrices à chenilles et des débardeurs mécaniques. Jake se sentit tout petit devant cette cathédrale de l'espace, dont l'aspect baroque, excentrique et le degré d'usure apparente de ses matériaux soulevaient de sérieux doutes sur sa capacité à affronter le vide interstellaire. Il eut une pensée émue pour ses parents. Que faisait-il en cet instant? Continuait-il de le pleurer? Avait-il repris le cours de leur existence comme s'il n'avait jamais eu de fils? Se rendait-il au temple creusien? Pas arpentait-il les allées du parc cynégétique d'Anjor, le fusil à gaz sur l'épaule, les joues et le ventre gonflés d'importance? Man était-elle en train de nettoyer et de ranger la maison? Les 2 femmes du Trar avaient fait preuve d'une sollicitude touchante lorsqu'elles s'étaient occupées de lui. Par jeu, l'une d'elles lui avait même présenté le sein. Il s'était empressé de happer et de mordiller le téton jusqu'à ce que la douleur la contraigne à lui retirer de la bouche. Elle l'avait ensuite habillé de sous-vêtements, d'un pantalon et d'une veste de toile à sa taille qu'elles avaient déniché dans un réduit des appartements de Godovan. Le contact avec l'adorable petit bout de chair de la femme du Trar avait en partie étanché la soif de tendresse de Jake, Mais le gigantisme de ce monstre de fer venu du fond des âges l'emplissait à nouveau d'un sentiment de solitude infinie. Les doigts de Besmore fourragèrent dans le buisson de poils épineux qui lui dévorait les deux tiers du visage. Aux crépitations sèches que provoquait ce frottement, Jack crut que sa barbe allait s'enflammer.
« La solitude est le lot des princes et des guerriers, » murmura le sorcier. « Les autres, tous les autres, ont besoin de se contempler dans les yeux de leurs semblables. Ne regarde jamais autour de toi, Jack, mais en toi. »
À cet instant, un employé du bâtiment administratif de l'Astroport se dirigea vers eux.
« Le viduc vous attend. »«
Pas trop tôt, »
grommela Godovan en se levant. « Seulement le trar, le sorcier et le surfaceur, » précisa l'employé, un être filiforme dont la bêta-zoomorphie se traduisait par une ressemblance prononcée avec certaines familles de primates. « Les gardes devront attendre ici. »
Une rumeur enfla subitement du côté de la voie d'accès à l'astroport, et rapidement un véritable déluge sonore submergea la salle d'attente.
« Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»
bredouilla l'employé.
« Plus tard les questions, » fit Besmore. « Conduis-nous au viduc. »
Il n'avait fallu au sorcier qu'une demi-seconde pour appréhender la situation. Les clameurs transperçaient les murs et les baies vitrées. Une marée galopante, furieuse, déferlait maintenant sur le bâtiment administratif. La salle d'attente s'était tout à coup peuplée de statues. Aucun des auxiliaires de l'astroport, pétrifié derrière les comptoirs, ne songeait à déclencher le système de fermeture des grilles magnétiques. Besmore enfonça le canon de son onde mort dans les reins de l'employé crucifié par la peur.
« Conduis-nous au viduc !»«
Tu n'as pas l'impression d'en faire un peu trop, sorcier ?» demanda Godovan.
Au regard noir que lui décocha Besmore, le trar comprit qu'il avait eu tort de poser cette question. Le sorcier avait dansé avec les atomes, parlé avec la sorcière nucléaire, et de ce fait rien ne réussirait à infléchir sa détermination. Le contrarié revenait à contrecarrer la volonté de la toute-puissance messagère d'Arès.
« Suivez-moi !» souffla l'employé.
Agar, tremblant de tous ses membres, il se dirigea vers la première des trois portes codées qui se dressaient dans le couloir reliant le bâtiment à l'aire plane de décollage. Le temps que ses doigts fébriles, maladroits, composent le code d'accès sur la console insérée dans la cloison, et des silhouettes gesticulantes hurlantes s'étaient déjà introduites dans le bâtiment.
« Tu avais prévu un sursis d'une heure, sorcier, » fit observer Godovan. « Une erreur d'appréciation qui risque de nous coûter la vie. »
« Ils ont dû forcer le portail de la résidence et interroger les femmes. J'espère qu'ils ne les ont pas. Si ce crétin de Don avait consigné ses hommes, nous n'en serions pas là. »«
Donne-leur le surfaceur, puisque c'est lui qu'ils veulent. » »«
Il faudra d'abord me tuer, trar Godovan. Moi vivant, personne ne touchera un cheveu de sa tête. »
Les battants de la première porte se décidèrent enfin à coulisser. Ils s'engouffrèrent dans un large couloir inondé de lumière. L'employé ne chercha pas à enclencher le système de fermeture de la première porte, dont le vitrage à double épaisseur n'était pas conçu pour résister aux poussées désordonnées d'une multitude, mais seulement pour permettre aux auxiliaires d'effectuer une fouille de routine sur les passagers qui se rendaient à la porte d'embarquement. Il leur fallait d'urgence franchir le deuxième sas, un ventail blindé derrière lequel ils seraient en sécurité. L'employé avait compris que la horde qui prenait le bâtiment d'assaut en voulait aux trois individus qui lui filaient le train, et Besmore n'avait plus besoin de lui ficher le canon de son arme dans les reins pour l'aiguillonner. Ils parcoururent au pas de course les quelques 200 mètres qui les séparaient du sas blindé. L'employé arracha le clavier de sa niche et ses doigts volèrent sur les touches rondes. Godovan jetait de fréquents coups d'œil par-dessus son épaule.
« Ils arrivent. Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir cette satanée porte ?»«
Je fais ce que je peux. Le code est complexe. »
gémit l'employé dont le front se couvrait d'épaisses gouttes de sueur. La meute se ruait à son tour dans le couloir, sur les parois duquel se répercutaient les cris et les claquements des chaussures ou des pieds nus. Besmore se retourna, leva son nom de mort et fixa froidement les hommes et les femmes qui accouraient dans leur direction. De pauvres hères dépenaillés ravagés par le chêne. Ils ne pouvaient leur en vouloir. Tant misérable était leur existence qu'ils étaient prêts à se jeter sur n'importe qui pour en faire un prince du soleil, un être qui les conduirait vers des mondes meilleurs, qui les guiderait jusqu'à la source des métamorphoses, qui leur rendrait leur dignité d'être humain. La bêta-zoomorphie ne leur donnait pas seulement des apparences monstrueuses. Elle les plongeait également dans un insondable gouffre de désespoir et de douleur.
« Le prince du soleil ! Le prince du soleil !»
Il prononçait ces mots avec de l'extase dans les yeux et dans la voix. Il ne brandissait aucune arme, n'était pas animé d'intentions belliqueuses, du moins pas pour l'instant. Mais Besmore était parfaitement conscient que, même en déployant son autorité de sorcier, il ne parviendrait pas à les empêcher de lui arracher le petit surfaceur. Ils venaient réclamer leur droit à l'espoir, et ce genre de revendication ne se satisfaisait d'aucun compromis. Autant essayer d'endiguer un torrent furieux avec le seul barrage de ses mains.
« Ça y est presque !»
Queen a l'employé.
« Encore combien de temps ?»«
Environ 10 secondes. »
Un laps de temps largement suffisant pour que les poursuivants opèrent leur jonction. Le sorcier des rats du désert n'aimait pas ce que son devoir lui commandait de faire. Mais la messagère d'Arès, maîtresse tyrannique, exigeait parfois de terribles sacrifices. La mort dans l'âme, il appuya sur la détente et imprima un mouvement latéral au canon de son nom de mort. Les rafales d'ondes scintillantes criblèrent l'espace restreint du couloir et fauchèrent une dizaine de silhouettes qui rebondirent sur les parois avant de rouler sur le carrelage. Les suivants immédiats, emportés par leur élan, trébuchèrent sur ces obstacles inattendus, basculèrent à la renverse et entraînèrent dans leur chute ceux qui les talonnaient. Les cris de douleur et les grognements de dépit se substituèrent aux acclamations, aux exhortations.
« Tu deviens fou, sorcier !»
gronda le trar. Besmore avait visé la tête de la foule, et les individus qui avaient échappé à la mort ou à la bousculade n'osaient maintenant plus avancer. Les épaules tombantes, les bras ballants, ils lançaient des regards incrédules sur les cadavres, sur les corps enchevêtrés et gesticulants, sur le sorcier qui se dressait à quelques mètres d'eux, sur le canon fumant de Londemort, sur le petit surfaceur au visage d'ange. Non seulement le sorcier tentait de soustraire l'enfant qui parlait aux hyènes, le prince du soleil, à leur vénération, à leur adoration, mais il n'avait pas hésité à ouvrir le feu sur eux, ses frères de malheur. Ils devaient s'arc-bouter sur leurs jambes pour contenir les poussées de leurs comparses attroupés dans la salle d'attente ou agglutinés dans l'entrée du couloir. Les vociférations, prémices d'une colère dévastatrice, redoublèrent d'intensité. Le système d'ouverture du sas se débloqua dans un claquement sec. Le ventail circulaire métallique coulissa silencieusement. Godovan, Jack et l'employé se faufilèrent sans perdre une seconde par l'étroite ouverture. De l'autre côté, ils tombèrent sur un groupe d'hommes d'équipage du viaduc Papyronda, reconnaissables à leur uniforme bleu nuit.
« Que se passe-t-il »
sentit l'un d'eux.
« Refermez ce sas si vous tenez à votre peau !»
cria le trar. Besmore, qui continuait de tenir la foule en respect, attendit que le ventail se soit pratiquement refermé pour se glisser à son tour dans la deuxième section du couloir. San Frisco, l'un des seconds du viduc Papyronda, guidait le trar, le sorcier et le petit Anjorien dans l'obscur labyrinthe des coursives. Ils avaient déjà subi 4 fouilles, 2 à résonance vibratoire, 1 à rayonnement radiologique et 1 corporelle, depuis qu'ils avaient posé le pied sur la passerelle d'embarquement. Godovan et Besmore avaient dû remettre leurs armes aux responsables de la sécurité. Ils avaient traversé d'immenses salles bourrées de conteneurs et de véhicules d'exploration, d'autres plus petites où s'entassaient des passagers qui trompaient leur ennui en jouant aux cartes. Cela faisait plus d'un mois standard que le vaisseau stationnait sur l'astroport du Gen. Le temps nécessaire pour recharger en vivres, en marchandises, en carburant et en matières premières. Les passagers, les émigrants qui venaient pour la plupart des mondes Skoï, préféraient rester à bord plutôt que de se promener dans les rues de Glatinbat et de braver la curiosité maladive des bêta-zoomorphes. Les yeux de Jack revenaient sans cesse se poser sur les épaules et la nuque de San Frisco. Le second du viduc Papyronda était un humain sain, comme tous les membres de l'équipage, et cependant ses cheveux mi-longs, lisses et noirs, les 2 minces fentes de ses yeux bridés, son nez aquilin, ses lèvres d'un brun foncé tirant sur le noir, son teint cuivré et son allure souple, aérienne, silencieuse, lui conféraient l'inquiétante allure d'un oiseau de proie. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'il avait pris les 3 visiteurs en charge, et ce naturel taciturne, renfrogné, renforçait l'impression de mystère qui se dégageait de lui. De temps à autre, Il se retournait et enveloppait Jek d'un regard impénétrable. Ils empruntèrent une coursive abondamment éclairée par une rampe d'applique enchâssée dans la cloison métallique, fermée en son extrémité par une porte de bois sculpté. San Frisco l'ouvrit et s'effaça pour laisser passer les trois visiteurs. Ils se retrouvèrent dans un vestibule au plafond criblé de mouchards holographiques dont les grésillements égratignaient le profond silence. Une seconde porte entrebâillée donnait sur une pièce en enfilade.
« Fais-les entrer !»
tonna une voix grave au bout de quelques secondes. Précédés de San Frisco, ils pénétrèrent dans une cabine spacieuse, ornée de tentures hautes et de tapis précieux d'orange. Derrière le bureau ventru qui trônait au milieu de la pièce, avait pris place un homme au crâne glabre, au visage émacié mangé par deux immenses yeux gris clair. Ses doigts jouaient machinalement avec un petit écran bulle holographique éteint.
« Vous encore, Trar Godovan. J'ose espérer que vous me dérangez pour un motif recevable. Vous n'ignorez pas que nous décollons dans 3 jours et que, par conséquent, notre temps est compté. »
Le viduc Papyronda ne correspondait pas à l'idée que Jek s'était faite d'un pillard, d'un égorgeur de l'espace. Il avait imaginé un géant hirsute, barbu, aux sourcils épais, à l'œil noir, aux dents de carnassier, un individu à demi-sauvage vêtu de peau de bête et buvant le sang de ses victimes dans des coupes de métal. Et il se retrouvait devant un homme sanglé dans une élégante veste de soie noire, aux mains blanches et fines, aux manières aristocratiques, au langage châtié. Seule la sécheresse coupante qui sous-tendait sa voix posée trahissait l'aspect dur, implacable du personnage.
Il n'y avait rien à tirer des rescapés du Terrarium Nord que vous avez convoyé jusqu'à Glatinbat, Trar Godovan, reprit le viduc. Je ne pouvais même pas les vendre aux concessions minières de Néorope. Les compagnies refusent les bêta-zoomorphes. Qu'en avez-vous fait? Demanda Godovan d'un ton obséquieux. Je les ai confiés aux bons soins du Conseil des Trars de Glatinbat. Or, comme vous le savez, la cité a atteint un seuil démographique critique. Ce qui signifie, intervint Besmore.
Un sourire sardonique effleura les lèvres affûtées du viduc.
Vous m'avez très bien compris, sorcier. Personne ne voulait de Quarantin du ghetto, ni les surfaceurs d'Anjor, ni les clans de la zone contaminée. Les Quarantins étaient nos frères et il y avait peut-être une solution.
Insista le sorcier, la barbe hérissée de colère.
« La libre cité de l'espace, par exemple. »« Erreur, sorcier. Les libres citoyens de l'espace n'acceptent aucun mutant, qu'il soit hybride de race humaine et non humaine ou, comme vous, atteint de bêta-zoomorphie nucléaire. De plus, il aurait fallu que les clans, dont le vôtre, se cotisent pour acquitter le prix de leur voyage. » Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que vos complanétaires sont actuellement confrontés à des difficultés économiques insurmontables. Mais vous n'avez probablement pas demandé à me voir pour évoquer le sort des rescapés du Terrarium d'Anjor.
Il désigna les fauteuils auto-suspendus placés en demi-cercle devant le bureau.
Asseyez-vous, je vous en prie.
Godovan se carra dans un fauteuil.
En effet, viduc. La destruction du Terrarium Nord prive notre clan de sa source principale de revenus. Nous avions le monopole des liaisons entre le ghetto et les principales villes du Grand Désert nucléaire. Ce sont les dangers du monopole, Trar Godovan.
L'image du visage agonisant du vieil Artrarak traversa l'esprit de Jek. Le cynisme du viduc contrastait de manière tellement brutale avec l'humanisme du Quarantin que le petit Anjorien ne parvenait pas à établir un lien, même ténu, entre les deux hommes, et qu'il avait l'impression tenace d'évoluer dans un mauvais rêve.
La flotte de notre clan est composée de 20 aérotomiques d'une contenance de 20 tonnes, poursuivit Godovan. Et alors? Une capacité nettement supérieure aux 100 chenilleurs du clan des Lycaons. Si j'ai bien compris le sens de votre démarche, Trar Godovan, vous me demandez de vous confier l'approvisionnement des minerais radioactifs des monts de Surail.
Les aérotomiques présentent également l'avantage d'être plus rapides, argumenta Godovan. Une vieille amitié me lie à Grar Serbet, le trar des Lycaons. Un homme lent, certes, mais efficace et sûr. Au nom de quoi devrais-je dénoncer une collaboration qui me donne entière satisfaction ? Godovan se tourna vers Jek, assis à califourchon sur l'accoudoir d'un fauteuil.
Non, non, peut-être de ce jeune Angeorien.
Une lueur d'étonnement s'alluma dans les yeux gris du viduc.
Il se trouvait dans le ghetto lorsque les surfaceurs ont procédé au comblement des puits, précisa le trar. Il est parvenu à s'enfuir avec des rescapés. Il prétend vous connaître. Nous avons dû prendre de gros risques pour vous l'amener. Il nous a coûté la vie de 5 hommes d'équipage et d'un quartier-maître. Le prix à payer pour vous montrer notre détermination à vous servir. »
Le viduc lâcha les crambules au lot, passa les coudes sur le bureau, se pencha vers l'avant et examina Jek avec attention.
« Je rends grâce à votre désir de m'être agréable, Trar Godovan, mais je crains que vous ne vous soyez donné tout ce mal pour rien. Je n'ai jamais vu cet enfant. » Je ne connais d'ailleurs aucun Angeorien, surfaceur ou quarantin. »
Un vent glacial se leva dans l'esprit du petit Angeorien. Comme il l'avait deviné, le viduc Papyronda ne connaissait pas Arthrarak. De là découlait que la voix du vieux quarantin n'avait colporté que des menteries et que l'aventurier Jek Atskin s'était lancé sur les traces de personnages qui n'avaient jamais existé. Besmore, qui n'aimait pas la tournure que prenait l'entretien, jugea opportun d'intervenir.
Peu importe que vous le connaissiez ou non, viduc. J'ai dansé avec les atomes, et notre mère, la sorcière nucléaire, m'a prié de vous le confier.
Vos croyances ne sont pas les miennes, sorcier, répliqua le viduc, et votre mère n'est pas la mienne. Mais si vous voulez vraiment que ce gamin embarque sur mon vaisseau, il vous reste toujours la possibilité de payer son voyage. Il vous en coûtera 20 000 unités standard.
Vous savez bien que je ne dispose pas de cette somme.
Le viduc haussa les épaules. En ce cas, quant à votre proposition, Trar Godovan, je vous promets d'y réfléchir et de vous donner ma réponse lors de mon prochain passage. San Frisco, raccompagne ces messieurs.
Des émulsions lumineuses dansèrent subitement à l'intérieur de l'écran-bulle et un visage miniaturisé 3D s'éleva du socle de projection. Une voix nasillarde grésilla par les haut-parleurs encastrés dans le bois du bureau.
« Des milliers de bêtas envahissent l'astroport, viduc. Ils ont découpé les 2 sas blindés du couloir au rayon désintégrant. Ils se dirigent vers les passerelles d'embarquement. Ils sont fous furieux. Mes hommes ont de plus en plus de mal à les contenir. »
Papyronda appuya sur le bouton de l'émetteur.
« Que veulent-ils ? » ?»«
Je n'en sais foutrement rien, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont l'intention de prendre d'assaut le vaisseau. »«
Ordonnez le repli général de tous les hommes et le retrait immédiat des passerelles, et n'hésitez pas à tirer pour les maintenir à distance. »«
C'est qu'il y a des femmes et des enfants dans le tas. »«
Je me contrefous de vos états d'âme. Je veux que toutes les issues du vaisseau soient bouclées dans 2 minutes. Je vous étranglerai de mes propres mains si vous laissez entrer un seul bêta. » Exécution.
Jek décela nettement la pâleur qui tombait sur les traits du visage réduit. La communication s'interrompit et l'écran-bulle recouvra sa limpidité cristalline. Le viduc leva des yeux furieux sur Besmore.
Cette émeute a un rapport avec vous, sorcier, n'est-ce pas ?
Besmore soutint le regard incandescent de son interlocuteur.
Pas avec moi, viduc. Avec le petit surfaceur. Les bêtas le prennent pour un fils d'Arès, pour un prince du soleil.
Le viduc l'invita à poursuivre d'un geste péremptoire du bras et, pour la deuxième fois en moins d'une heure, le sorcier dut raconter l'épisode des hyènes. San Frisco se rapprocha de lui comme si cette histoire le passionnait et qu'il voulait n'en perdre aucune miette. Toutefois, aucune expression ne vint altérer ses traits lorsque Besmore en eut terminé avec son récit.
« Eh bien, sorcier !» « La solution me paraît tout indiquée, » dit le viduc après un moment de silence. « Il vous suffit de remettre ce gosse à vos complanétaires pour que les choses rentrent dans l'ordre. »
Prenez garde, Viduc. Son destin ne vous appartient pas, déclara Besmore. Encore une fois, mes croyances sont différentes des vôtres. À l'intérieur de ce vaisseau, il n'existe qu'une religion, la mienne.
San Frisco, cours annoncer aux Bêta que nous leur remettrons leur prince dès qu'ils auront dégagé l'astroport.
Le second resta immobile. La lumière des appliques soulignait ses arcades sourcilières saillantes. La courbe prononcée de son nez enflammait ses cheveux noirs et lisses.
« Eh bien, qu'est-ce que tu attends ?»«
Ma tête m'ordonne de vous obéir, Viduc, mais mon cœur me dit que la vérité sort de la bouche du sorcier. »
C'était la première fois que Jake entendait le son de la voix de San Frisco. Il parlait le nafle interplanétaire, que Pa Atskin appelait également Syracusain ou Impériang, avec un accent à la fois rocailleux et chantant.
« Et que dira ton cœur lorsque j'y aurai planté une bonne lame d'acier ?»«
Il s'envolera vers les mondes de lumière et le vôtre cessera de chanter. »
Si le second avait une allure de guerrier, sa façon de s'exprimer était plutôt celle d'un poète ou d'un sage, et les mots glissaient de ses lèvres avec la force tranquille de l'évidence.
« C'est une véritable conspiration !» gronda le viduc. « Ton insubordination te coûtera cher, San Frisco. Le vaisseau court un grave danger à cause de ce satané gosse.
L'enfant n'est pas responsable de la situation, dit calmement le second. Mais ceux qui veulent l'enfermer dans la prison de leur faiblesse.
Tu choisis mal ton moment pour philosopher.
Le viduc ouvrit un tiroir de son bureau, en extirpa un brûlant trail à canon court qu'il braqua sur San Frisco. Godovan s'écarta du second et se recula prudemment de 3 pas.
« Si tu n'as pas tourné les talons d'ici 5 secondes, ton cœur s'envolera vers l'enfer et j'irai moi-même faire l'annonce au Bêta. »«
Mon cœur me supplie de déguerpir, mais ma tête aimerait savoir comment l'enfant d'Anjor a été informé de votre existence. »
Le viduc parut frappé de stupeur par la remarque de son second. À aucun moment il ne s'était interrogé sur la manière dont ce garçon de 7 ou 8 ans avait eu connaissance de son nom. Il baissa le canon de son arme et fixa Jake.
Un oubli facile à réparer.
Besmore avait trouvé un allié inattendu en la personne de San Frisco, un allié dont il admirait autant le sang-froid que l'habileté manœuvrière. D'un regard appuyé, il encouragea Jake, terrorisé par l'attitude menaçante du viduc, à s'exprimer.
Le puits A-102, la grotte au Plumeng, déglutit le petit Anjorien.
« Qu'est-ce que c'est que ce charabia ?»
glapit le viduc. Jake ne parvenait pas à détacher son regard de la bouche étroite et sombre du brûlant trail. Il avait l'impression que la moindre parole de travers serait immédiatement sanctionnée par une rafale d'ondes incendiaires. Il devait faire un terrible effort de volonté pour ne pas prendre ses jambes à son cou et s'enfuir dans le dédale des coursives.
« Le vieux, le vieil Arthrarak. » C'est lui qui m'a dit que...
Quel nom viens-tu de prononcer ?
Arthrarak.
Besmore perçut l'infime détente des traits du viduc. Les lueurs furtives de chaleur et de bienveillance qui dansaient dans ses yeux gris. Il sut alors qu'il avait gagné la partie. Il crut entrevoir un sourire sur les lèvres brunes de San Frisco.
Que dit ta tête à propos du chargement, San Frisco ? Demanda le viduc d'une voix brusquement radoucie.
« Elle pense qu'il manque encore quelques tonnes de minerais radioactifs, mais mon cœur m'exhorte à décoller sans tarder.
Tous les hommes et les passagers sont à bord.
Ma tête est pressée d'aller vérifier. »
Le second se dirigea à grandes enjambées vers la porte de la cabine et disparut dans la coursive.
« Il semble que tu sois parvenu à tes fins, sorcier, » dit le viduc.
« Je ne suis que l'humble serviteur de la messagère d'Arès. »
« Évidemment. »
Le viduc se tourna vers Godovan.
« Votre proposition me séduit, Trar Godovan. Peut-être qu'avec vos aérotomiques, nous aurions eu le temps de faire le plein. Vous n'ignorez pas cependant qu'un marché se conquiert de haute lutte. Voyez donc si vous pouvez faire entendre raison à Grar Serbet et à Célicaon. Nous fixerons les modalités du contrat dans 17 mois. lors de mon prochain passage. « Vous n'aurez pas à regretter votre décision, »
déclara le Trar en s'inclinant. Quelques minutes plus tard, San Frisco fit sa réapparition dans la cabine.
« Les têtes et les cœurs sont parés au décollage, Viduc. Aucun bêta n'est monté à bord. Il ne reste plus qu'à raccompagner nos deux hôtes du clan des rats. À moins, bien sûr, que ton foutu cœur ne te suggère de les garder avec nous. »
Un déluge de feu jaillit des tuyères et se répandit sur l'air plane de décollage. Les bêta-zoomorphes qui, malgré les nombreuses annonces diffusées par les haut-parleurs de l'astroport, n'avaient pas eu la sagesse de se replier dans le bâtiment administratif, furent réduits en cendres en une fraction de seconde. Les autres, massés dans la salle d'attente ou dans les couloirs d'accès, virent le grand vaisseau s'arracher de l'attraction du Gen. Le grondement assourdissant de ses moteurs d'extraction leur déchirait à la fois l'âme et les tympans. Le géant de l'espace emportait le fils du soleil, l'enfant qui avait parlé aux hyènes. C'était leur fol espoir qui s'envolait, la porte des mondes meilleurs qui se refermait, la source des métamorphoses qui s'asséchait. Arès les abandonnait pour la seconde fois. Ils suivirent des yeux l'ascension du vaisseau jusqu'à ce que l'absorbe la grisaille du ciel, jusqu'à ce que s'évanouissent les panaches de fumée blanche rejetées par ses tuyères. Puis ils se répandirent dans les rues de Glatinbat et se ruèrent dans les tavernes pour tenter d'oublier leur malheur dans le chêne. Il se trouva parmi eux quelques irréductibles qui s'en prirent aux rats du désert, se ruèrent dans la cour intérieure de la résidence du Trar et se vengèrent sur les gardes, les femmes et les enfants. Ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque l'astroport fut rendu à sa tranquillité coutumière, que les auxiliaires vinrent délivrer Godovan et Besmore de l'observatoire souterrain où les avaient enfermés les hommes du viduc Papyronda. Il était ordinairement réservé aux techniciens de l'astroport qui surveillaient les manœuvres d'atterrissage, et on pouvait y accéder par l'escalier intérieur d'un pied du vaisseau. Le sorcier contempla longuement le disque rougeoyant d'Arès, en partie occulté par un impénétrable voile de grisaille. Son regard erra sur les nombreux cadavres calcinés, recroquevillés, difformes, qui jonchaient l'air plane de décollage.
« Allons voir si la résidence n'a pas trop souffert de la visite de ces pauvres bougres. »
murmura-t-il.
« Je rends grâce à ton entêtement, sorcier, » dit Godovan. « Grâce à toi, nous aurons bientôt du travail. Il s'agit maintenant de convaincre Grar Serbet et ses Lycaons de nous céder leurs concessions.
La sorcière nucléaire prend soin de tous ses enfants.